Un petit point sur le programme, donc là on approche des 16h30, 17h même, c'est-à-dire que dans pas longtemps, grand défilé du troupeau, suivi par la bandasse de l'Écho d'Iwa, ça c'est dans les rues de Die, ça fait 2-3 tours, hein, vous allez pouvoir vous gaver. En attendant, on a un invité, ma chère Émilie.
Bah, écoute, on a avec nous Jacques Planchon, quand même, conservateur du musée archéologique de Die et du Diois. Et puis, le sujet est vaste, Jacques, mais on peut parler de pastoralisme dans l'histoire, sur le territoire. J'ai absolument pas idée de par où on peut démarrer une interview pareille, mais je pense, je vais partir d'un a priori de ma part, que ça date pas d'hier.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ça date vraiment pas d'hier, puisque ça démarre en même temps que tout ce qui est pratique agricole. Pastoralisme et agriculture vont bien de pair. Et donc ça démarre dès la fin de la préhistoire, enfin la fin de la préhistoire ancienne, donc néolithique. Au moment où justement l'humanité commence à comprendre comment on peut se servir des animaux, comment on peut se servir du sol pour les exploiter, même si le mot est très controversé, mais commencer donc à produire plutôt que simplement se servir.
Depuis, c'est quelque chose qui a lieu sur le territoire, il n'y a pas d'interruption dans cette histoire d'élevage et de...
Alors l'élevage, de toute façon, oui, commence avec le néolithique, et depuis, ça s'est évidemment perpétué sur le territoire. Alors ne pas confondre élevage et transhumance, avec l'estive aussi qui est au milieu, parce que c'est des notions qui sont un petit peu différentes. Et là, pour le coup, si on peut déjà parler d'estive, sans doute dès le néolithique, puisque les Diwa de l'époque, on parle d'une époque qui remonte à 6000-6500 ans avant nous, donc 4000-4500 ans avant Jésus-Christ, les Diwa de l'époque élèvent des animaux, alors des ovins, des bovins, il y a les deux déjà. Et l'été, ils font comme nous, c'est-à-dire qu'ils montent se mettre au frais en montagne. Et précisément, c'est les paysages qu'on voit ont été complètement formatés par l'homme depuis cette époque-là. C'est-à-dire que les premiers incendies, qui sont manifestement volontaires, ont été observés vers 5000 avant Jésus-Christ sur les hauts plateaux. En sachant que les alpages en dessous de 3500-4000 mètres, c'est pas naturel.
Ça signifie que tout ce qui est prairie déboisée là-haut, normalement, ça, il n'y a pas. C'est façonné par, justement, le pastoralisme.
C'est façonné par l'homme et par et pour le pastoralisme, oui, tout à fait.
C'est aussi puissant qu'une pollution. Enfin, on voit souvent dans les strates, on peut retrouver des phases de pollution. Le fait qu'ils aient brûlé comme ça, à des niveaux et systématiques, toutes les hautes montagnes, ça se retrouve dans le sol ?
Alors ça se retrouve en effet dans le sol. Alors il ne faut pas imaginer qu'on a des couches d'incendie monumentales. Hein. C'est des arbres qui brûlent. En montagne, les arbres, bon, ça peut très très bien pousser, mais plus on monte, moins ça pousse. Mais on va trouver des charbons qui vont disparaître petit à petit aussi dans le sol. On va trouver des charbons et par datation, on voit que ces grands incendies démarrent vers 5000 avant Jésus-Christ.
C'est quoi qui change ?
C'est très limité comme phénomène au départ. Et puis ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure.
Et maîtriser ?
C'est une bonne question. Il n'y a pas de pompiers, donc on peut penser qu'en effet, s'il y a du vent ou de bonnes conditions météo pour un feu, c'est pas franchement maîtrisé. Cela dit, avant que ça descende flinguer les habitations dans la vallée, il y a une marge. Il y a même une marche, en fait.
Au fur et à mesure, le paysage change et les pratiques pastorales aussi. Qu'est-ce qui, à part cette histoire d'estive peut-être, mais qu'est-ce qui change dans la façon dont on fait du pastoralisme par rapport à cette époque où ça a commencé? Et pour rejoindre le thème du jour, le chien, deuxième question, il est là déjà dès le début?
Alors le chien, on pense que c'est sans doute la plus ancienne conquête de l'homme sur le milieu naturel. Hein. C'est-à-dire que le chien et l'homme voient rapidement qu'ils ont des intérêts communs. Alors, il y a un vrai débat qui est ouvert entre généticiens et archéologues pour savoir si les premiers chiens descendent du renard ou du loup. On pencherait peut-être plutôt vers le renard qui est en fait plus sociable. Mais bon, c'est totalement controversé et pour l'instant le débat n'est pas tranché. Mais ce sont sans doute des animaux un peu moins craintifs que les autres qui vont comprendre tout l'intérêt de vivre en commensaux, c'est-à-dire autour des habitations humaines, ne serait-ce que pour grappiller les déchets au départ. Et puis petit à petit, ils vont se rapprocher, ils vont s'habituer, jusqu'au moment où ils vont se trouver des intérêts communs. Alors les intérêts communs, ça peut être uniquement dans la chasse, et c'est pour ça que le chien est sans doute utilisé avant même le néolithique, juste pour la chasse. Et puis, cette proximité va faire aussi qu'à partir du moment où on commence à faire de l'élevage, ou à se sédentariser progressivement, le chien va trouver d'autres utilités pour une société qui n'est plus nomade. Donc ça fait un sacré bail, oui.
Tout à l'heure, on a eu un éleveur de brebis, mais aussi de chiens, qui nous parlait de peut-être au moins 5000 ans d'utilisation des chiens de protection. Et puis que ça s'était complètement arrêté au moment des grandes éradications des grands prédateurs, pour être progressivement remplacé par ces chiens de conduite.
Alors là, on parle d'un phénomène qui est en effet extrêmement récent, puisque l'éradication du loup, c'est un phénomène qui date du 19e. En fait, l'éradication correspond surtout à l'optimum démographique dans nos régions. C'est-à-dire que pour se débarrasser du loup, il fallait qu'il y ait une présence humaine extrêmement importante, ne serait-ce que pour les voir et arriver à s'en débarrasser. Du coup, ça n'a été possible qu'à partir du moment où la population du Diwa était sans doute au moins 3 fois supérieure à la population actuelle. Donc il ne faut pas en tirer des conclusions pour l'avenir, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Moi, je m'intéresse à ce qui s'est déjà passé et pas à ce qui pourrait se passer plus tard, qu'on soit clair. Mais voilà, il y a cette correspondance entre la disparition du loup et l'emprise maximale de l'homme sur son milieu. Ça, c'est important. Par contre, à l'échelle historique, évidemment, si on remonte sur 5000 avant Jésus-Christ, donc 5 à 7000 ans de cohabitation, c'est un épiphénomène. Je veux dire, on parle de là quelques dizaines, voire une centaine d'années. Et moi, je vous parle de milliers d'années, donc les choses n'ont pas de rapport. Après, sur les différents chiens, pour le néolithique, j'avoue que je ne sais pas. Là, on peut remonter à l'époque grecque et romaine, c'est-à-dire les derniers siècles avant Jésus-Christ et les premiers siècles après, où là, on sait qu'il y a déjà une différenciation entre des chiens, on va dire des chiens d'attaque, des chiens de garde. Je ne parle pas de troupeaux, là, hein, je parle plutôt de secteur urbain. Et puis des chiens qui accompagnent les troupeaux. Et je me souviens avoir vu, c'était assez sympa, c'est au musée de... C'est un petit musée en Corse, je ne me souviens plus le nom du secteur, qui conserve une céramique grecque, magnifique, qui est en forme de tête de chien. Et nous, ça nous a amusé parce que ce chien avait exactement la même tête que le nôtre, qui est un bosseron. Ce qui sous-entend que, au 4e siècle avant Jésus-Christ, le bosseron, il y a déjà des chiens qui ont l'attitude et la tronche du bosseron actuel. Et le bosseron, par contre, là, on est bien sur un chien de berger, il n'y a pas de problème.
Qui n'a pas trop bougé d'ailleurs depuis. Hein.
Qui a peu bougé, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a compris une combine, on essaie de l'alimenter. Donc une fois qu'on a fait les croisements génétiques pour obtenir un certain type de chien, c'est pas la couleur qui intéresse au départ, c'est le comportement, mais ça va manifestement de pair. On va essayer de conserver ce type de chien, avec toutes les problèmes que ça pose, parce que génétiquement, les croisements en milieu clos, ça finit par faire des tarés. Mais donc il faut de temps en temps amener du génétique nouveau, quoi. Mais on arrive quand même à garder des races qui se tiennent à peu près, ouais.
Mis à part la façon dont ça a façonné les paysages, les influences au cours de l'histoire du pastoralisme, au niveau des migrations, par exemple, ça a eu une importance ?
Je ne parlerai pas de migration, je parlerai d'emprise et de déprise. C'est-à-dire que sur le temps long, une civilisation et une société respirent, donc elle s'agrandit, elle se réduit, etc. Et on le voit ça aussi dans le paysage, puisque plus une emprise humaine est forte, plus le paysage va être remodelé pour convenir aux besoins humains. Et plus il y a une déprise humaine, c'est-à-dire une désertification, plus la nature reprend ses droits. Et les droits de la nature ne sont pas franchement les nôtres. Hein. Les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. La nature, son intérêt, c'est d'avoir un maximum de diversité et de faire pousser un maximum de trucs dans le maximum d'endroits. Notre intérêt à nous, c'est de maintenir des espaces ouverts, des espaces fermés, en fonction de nos convenances. Donc, plus les humains sont nombreux à un endroit précis, plus ils vont modeler le paysage à leur convenance. Moins ils sont nombreux, plus le paysage va reprendre sa liberté.
Paysage, ceci dit, qui... on l'entend des fois dans certains discours ici entre naturalistes, protecteurs du loup ou évidemment ceux qui sont à la tête de l'activité pastorale, que la biodiversité, en tout cas la flore, se développe plus sur des zones ouvertes que dans des forêts qu'on peut imaginer très sombres et sous lesquelles plus rien ne pousse.
Là, pour être franche, je suis pas naturaliste. Bon. Comme je dis tout le temps, je m'intéresse à des choses mortes et donc le vivant, c'est pas de mon ressort. Ce que je sais, c'est que les niches écologiques peuvent évoluer et garder une richesse en espèces, etc., sur un milieu tel qu'il existe, c'est... le milieu va déterminer la richesse biologique dessus. Donc une forêt, on peut avoir une richesse biologique aussi, mais qui est d'un ordre différent. Ce ne sera pas les mêmes animaux, ce ne sera pas les mêmes plantes, ce ne sera pas forcément le même type de diversité. Mais on va trouver dans une forêt tout un stock d'insectes qu'on ne va pas trouver dans les prairies, et inversement, par exemple. Parce qu'on ne parle pas que des gros animaux ou des plantes à fleurs, là, on parle de l'ensemble du vivant. Après, je ne suis vraiment pas spécialisé sur ce genre de trucs. Simplement, nous, ce qui nous intéresse plutôt maintenant, c'est le maintien des paysages. C'est-à-dire que la désertification des campagnes amène aussi une fermeture des paysages, les arbres poussent. Alors c'est très agréable quand on a besoin d'ombre dans son jardin, ça n'est pas forcément autant quand on a besoin d'espace de pâture ou simplement d'espace libre. Si on regarde les photos du début du XXe siècle prises dans le Diois et les photos actuelles, la différence est énorme. C'est-à-dire que le paysage s'est complètement fermé. Hein. Des champs ont disparu, ont été remplacés par des bois ou des forêts. Les abords des rivières se sont énormément boisés aussi parce qu'ils ne sont plus entretenus ou exploités. Enfin, il y a un vrai changement. Après, moi, j'ai pas à faire du déterminisme. C'est-à-dire que la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Si on veut obtenir des paysages libres et vierges qui s'auto-régénèrent, on peut le faire, mais ça veut dire qu'on n'y va plus, quoi. Si on veut garder l'image d'un pays, cette image qu'on a dans nos propres rétines, il y a en effet un certain nombre de pratiques à préserver. C'est aussi simple que ça.
C'est ce que l'histoire nous prouve. Quand il y a eu ces pressions ou dépressions humaines sur des zones, ça devenait des no man's land, quoi.
Alors le no man's land absolu, ça n'existe pas. Hein, parce que l'humain est curieux, donc il finit toujours par aller...
Et y retourner au moins.
Ou aller jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble. Mais en effet, il y a des zones qui ne sont plus ni exploitées ni habitées, donc on peut parler de désert, à défaut de parler de no man's land. Ça, c'est en effet en fonction des respirations de la société. Ces déserts-là peuvent être causés par des exodes ruraux, ça c'est celui qu'on a connu au XXe siècle. Ça peut être causé aussi par des famines ou des épidémies. Là, le dépeuplement est d'un autre ordre. C'est pas des gens qui vont voir ailleurs, c'est des gens qui n'existent plus. Mais ça a le même effet, c'est-à-dire que le paysage se transforme. Mais de toute façon, ce sont des transformations qui sont à la fois lentes sur la durée, mais qui peuvent être extrêmement rapides si on se base sur une durée plus longue que la vie d'un homme. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Un exemple tout simple. Un arbre, ça a besoin d'une quarantaine d'années pour pousser. Un arbre lambda. Après, il y en a qui poussent plus lentement, pour arriver à une taille où on ne peut pas le louper dans le paysage, quoi. Voilà. Ce qui veut dire qu'en 40 ans, un paysage peut changer du tout au tout. Sauf qu'en 40 ans, c'est un changement qui se produit donc sur la durée. Et pour nos rétines, c'est un changement qui n'existe pas, parce qu'on ne le voit pas.
On est incapable de voir un arbre pousser. Oui.
Voilà. C'est un classique du genre. Quand vous avez des gamins qui sont petits, c'est vos gamins, vous ne vous rendez pas compte qu'ils grandissent parce que c'est un petit peu tous les jours. Par contre, quand vous avez des copains qui passent qu'une fois tous les 2 ans, eux, ils vous disent « Putain, le gamin, il a vraiment changé, là. » On ne s'en aperçoit pas si on a le nez dessus. C'est quand on revient avec le temps qu'on voit les changements.
Et quels ont été les risques relevés par l'histoire de territoires qui se ferment ?
Alors, des risques... Là, j'ai resté juste dans la posture de l'historien. Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est encore une notion d'avenir. Moi, je parle du passé. Donc, il n'y a pas de risque à un paysage qui se ferme. Simplement, si on veut refaire venir des gens dessus pour les nourrir, pour en vivre, il va falloir refaire tout le boulot de défrichement et d'amélioration du terrain. Parce qu'une fois que la forêt s'y est mise, il faut couper les arbres, si on ne veut plus qu'il y ait de forêt. Donc, c'est un énorme travail. Alors, ce n'est pas un risque. Ça se répare, ça prend du temps, ça prend des moyens, ça se fait. Après, là encore, on est sur un temps long. Le risque, si vous achetez une parcelle de terrain agricole et qu'elle n'est plus exploitée, vous l'avez achetée à 20 ans, à 60, quand vous voulez la revendre, c'est plus du terrain agricole, c'est une lande, voire un bois, et le prix n'est plus tout le même. Donc ça, oui, c'est un risque.
On aura fait parler d'avenir à un historien, c'est bon ça.
Mais parce que c'est hyper lié. Moi j'ai une question qui a tout à voir, mais pas tout. Ça fait... Oh, t'as entendu ? Patou.
Ça fait Patou. Ouais.
Une question à propos de la célébration. Ça fait, nous, quelques années qu'on fête la transhumance à Die, mais est-ce que, historiquement, il existe des célébrations autour de cette date et cet événement qui rythme la vie
Du pastoralisme, même, d'une manière générale. On sent que c'est un truc frais, qu'il faudrait que ça communique dessus.
Alors, ça, c'est une vraie colle.
Bon, Adi, on sait que c'est depuis 90. Hein,
90, oui. Ouais. Bah, ça fait 27 ans, donc 90, oui. Non, là, je n'aurais pas vraiment de réponse en termes de célébration du pastoralisme en tant que tel, notamment dans les textes. Alors, peut-être qu'il y en a et que je m'en souviens plus, simplement.
Est-ce que ça aurait à voir avec le solstice qui tombe un peu dans les mêmes dates?
Alors le solstice, de toute façon, tombe toujours à la même date, ça c'est non, mais on ne peut rien.
Par rapport à la transhumance,
les fêtes qu'on fait avec. Alors, de toute façon, oui, c'est une aide intéressante. En effet, il y a des fêtes qui sont liées, alors pas forcément au pastoralisme, mais aux différences de saison ou aux dates marquantes dans le calendrier agricole, qu'il soit pastoral ou qu'il soit agricole plantation, quoi. Puisque il est extrêmement important pour les agriculteurs de savoir à quelle époque on est, enfin à quelle date on est. Exemple tout bête, à la Sainte-Catherine, tout prend racine. Si vous plantez une semaine avant ou une semaine après, le résultat ne sera pas le même. Donc c'est important de savoir quand tombe la Sainte-Catherine. Et c'est pour ça que dès le néolithique, on va mettre en place des structures qui permettent de se repérer par rapport à la position du soleil, la position des étoiles. Donc savoir quel jour on est et savoir si le moment est propice pour planter ceci, pour récolter cela, etc. En gros, prévoir l'avenir. Et ça, c'est tout le travail. Alors, c'est un travail qui est généralement confié à des religieux à l'époque. Là, je parle du néolithique, mais dans l'Antiquité aussi. Hein, on va consulter le devin pour savoir si c'est le bon moment pour faire ceci ou cela, etc. Donc c'est intimement mêlé aux religieux. Mais de toute façon, religion, agriculture, politique, tout ça se mélange joyeusement, puisque dans des sociétés rurales, toutes les notions qui font vivre au jour le jour sont imbriquées. Et ça, c'est normal. Donc des fêtes, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient autres, à des moments clés du passage des saisons, bien sûr qu'il y en a. Alors évidemment, c'est en lien avec l'agriculture, ça peut être en lien avec le pastoralisme, mais en fait, c'est en lien surtout avec la vie, enfin ce qui fait l'essentiel de la vie d'une société rurale.
Mais a priori, pas dans tes souvenirs là de fêtes qui tournent autour de ce fait de transhumer et d'aller dans les alpages avec les troupeaux.
Dans mes souvenirs, pas de fête.
Écoutez,
en effet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas existé. Hein. C'est simplement, j'en ai pas connaissance. Par contre, après, on peut se poser d'autres questions. Quand on regarde le menhir néolithique de Die, par exemple, il y a quand même une représentation d'animal cornu qui est peut-être une synthèse entre ovin et bovin. Quels sont les rites qui peuvent se passer devant ce menhir? Pourquoi est-ce qu'on a gravé ce signe sur ce menhir? Est-ce que, justement, ça a fait un moment l'objet d'une fête? Difficile de répondre à ce genre de questions.
On est dans l'interprétation, comme d'habitude, en histoire et en archéologie, quoi.
Bah, quand on n'a pas le mode d'emploi, oui, on est obligé d'imaginer des solutions.
Le musée de Die, dont tu es le conservateur, Jacques Planchon, est chaque année partenaire de cette fête de la transhumance, en tout cas depuis que nous, on la suit à la radio. Comme ça, je ne prends pas de risque. À chaque fois, est-ce qu'il prend une couleur particulière sur le pastoralisme? Et question annexe, est-ce que du coup, qu'une seule fois dans l'année, on peut profiter de cette histoire-là?
C'est vrai qu'on en profite à cette occasion-là. Ça serait tout à fait possible d'en profiter à d'autres moments. Après tout, on peut tout à fait faire des visites guidées du musée sur une thématique particulière. Il suffit de prendre rendez-vous pour un groupe, ça c'est pas difficile. Mais c'est vrai que c'est le moment privilégié pour parler de pastoralisme au musée. On l'a fait ce matin. Après, le musée traite de toute façon de tout un tas de problématiques en fonction des objets qui sont exposés. Donc ces objets, ils parlent. On a des objets qui ont un rapport direct avec le pastoralisme, oui, de toute façon.
Mais ils sont là tout le temps, voilà.
Mais ils sont dans l'expo permanente, oui. Ouais. On a quelques-uns en réserve qu'on sort pour l'occasion. Mais la plupart sont en expo permanente. Parce que de toute façon, encore une fois, c'est un reflet de nos sociétés. C'est-à-dire que dans une société rurale, agriculture, pastoralisme, c'est quelque chose de. Enfin, qu'on voit tous les jours et donc qui se retrouve dans les objets usuels qu'on retrouve à l'heure actuelle.
Voilà, donc c'est juste le focus qui est permis un peu
voilà,
plus
tout à
sur
fait.
Cette journée-là.
Alors on fait ce focus-là pour la transhumance, de la même façon qu'on fait un focus sur la vigne pour les espiègleries, parce que c'est le moment de le faire. On peut en faire plein d'autres et tout au long de l'année.
Il y en a d'autres en prévision, alors?
Alors, au musée, on a des petits focus, oui, qui se font en partenariat avec l'Association des Amis des Arts et du musée, puisqu'on organise 3-4 fois par an des visites thématiques, alors soit du musée, soit de la ville, justement avec une thématique qui est choisie alors, en fonction de l'imagination du moment, c'est-à-dire qu'on peut faire des propositions, et sinon, c'est moi qui essaie d'en trouver une. La dernière thématique, une visite qui, je crois, a marqué tous les participants, c'était la visite du cimetière de Die. Donc une thématique très particulière, mais qui était extrêmement intéressante.
Voilà. On peut apprendre pas mal de choses des tombes, notamment des stèles, etc. On l'a appris avec cette association de cimetières familiaux. Là,
alors là, on sort un peu du cadre de la journée, mais oui, dans un cimetière, les gens du coin ils sont enterrés, il y a des inscriptions. Et ça permet justement de faire un petit retour sur les personnages qui ont marqué leur époque depuis le 19e siècle, parce qu'on les retrouve gentiment au cimetière.
Et ils ont peut-être été éleveurs de brebis, d'ailleurs.
Alors, il y en a sûrement eu. Généralement, c'est assez rare, et on n'a pas le cas, ici, au cimetière de Die, d'éleveurs ou de bergers qui indiquent leur profession sur leur selle funéraire. C'est d'ailleurs dommage. Oui. J'aimerais bien qu'on fasse, parce que, pour moi, ça ne me servira pas trop, mais d'ici une cinquantaine ou une centaine d'années, pour mes successeurs, ça peut être intéressant de savoir qui faisait quoi et qui était qui.
Voilà. Il y a souvent la religion qui est indiquée assez rapidement, mais on pourrait avoir la profession à côté, quand même. Ce serait
alors, la religion, oui, parce que dans le cimetière de Die, il y a eu pendant très longtemps une séparation entre protestants et catholiques, donc la position des tombes. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est qu'il y a des tombes qui traversent la clôture, parce qu'une même famille, des protestants et des catholiques, ouais, au sein de la même famille. Donc c'est la même parcelle qui traverse la clôture avec le même nom de famille des deux côtés, ce qui est plutôt amusant. Mais et du coup, je me souviens plus ce qu'était la question.
Il n'y avait pas de question, on était en train de dériver. On est toujours à cette fête de la transhumance, le pastoralisme a du chien cette année.
Si, on parlait de transhumance justement, et je disais en début d'émission que... il ne fallait pas confondre pastoralisme, estive et transhumance. Parce que la transhumance, c'est quelque chose de très particulier, c'est sur une distance relativement longue. On parle toujours de la transhumance depuis la Provence, donc la plaine de Lacroix, Arles, etc., ou Avignon,
qui remonte. Voilà.
Et on l'a fait remonter au XIIIe siècle. Et en fait, c'est simplement parce qu'à partir du XIIIe siècle, on a des textes, et notamment énormément de procès, qui parlent de la transhumance. Les procès simplement parce que les moutons vont empiéter sur la parcelle de machin qui n'était pas d'accord, enfin, etc. Donc c'est surtout par cette littérature là qu'on a des éléments sur la transhumance au XIIIe siècle, mais rien n'indique que ces transhumances ne se faisaient pas avant. Alors, on a des traces d'estive sans doute dès le néolithique, j'en parlais un petit peu, notamment parce qu'on a des étapes à mi-chemin des hauts plateaux avec des grottes bergeries. La plus connue dans le secteur, c'est la Thune de la Varême, évidemment. Il y en a aussi une à Solor-en-Diois. Donc ces grottes bergeries qui étaient à peu près à mi-chemin entre la plaine et la vallée et le plateau, et qui permettaient de faire une étape ou de rentrer le troupeau en cas d'orage. Et puis, pour l'époque romaine, on n'a pas d'attestation de transhumance sous ce nom-là. Mais ce qu'on peut noter, c'est que très peu de temps après l'époque romaine, il y a une bataille qui va durer très longtemps entre les archevêchés de Vienne et d'Arles pour assurer la suprématie sur le diocèse de Die. Les archevêques étant au-dessus des évêques. Hein. Donc Die est un évêque et il y a des archevêques à Vienne et Arles qui se disputent la suprématie sur le Diois. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'ils se disputent et ça va durer du 5e siècle jusqu'au 11e siècle. Donc ça dure 600 ans cette affaire. C'est Vienne qui gagne. Mais on peut se demander quand même pourquoi Arles voulait absolument la suprématie sur le diocèse de Die. Et sachant qu'au 5e siècle, on a des évêques qui sont issus d'une famille d'Avignon. Donc là encore, c'est des choses qui parlent. Arles, Avignon, le Diois. On peut très légitimement se demander s'il n'y a pas un lien avec des intérêts économiques, et notamment les débouchés de transhumance partant de Provence en direction d'Embrun d'un côté et de Die de l'autre.
Et est-ce qu'à partir du XIIIe siècle, où les procès se font justement légion et permettent d'avoir une littérature sur cette transhumance, correspondent aussi le développement de grands élevages ou de rassemblements pastoraux comme aujourd'hui l'ADEME permet de régler les problèmes de parcelles où on mange dedans ou pas?
Alors sur la taille des troupeaux, on n'en est pas aux tailles qu'on peut atteindre à l'heure actuelle, c'est quand même plus réduit, même si on peut avoir des exceptions. Ce qui peut changer la donne, c'est la forte présence des propriétés monastiques sur les plateaux, notamment Glandès, Vercors. Il y a pas mal de propriétés monastiques et qui ont justement comme utilité d'avoir des espaces d'alpage. Alors, après, il faut voir ce que c'est comme type de monastère. On sait qu'il y a un certain nombre de toponymes qui font référence aux Templiers sur le Glandès. Et là, on peut supposer que ce sont plutôt des pâturages pour les chevaux, parce que le cheval a un très mauvais rendement de digestion par rapport à la vache, en tout cas, qui a plusieurs estomacs. Et donc, il lui faut beaucoup plus d'espace à brouter pour pouvoir se nourrir. Donc les Templiers, qui sont des chevaliers, donc ils doivent entretenir des chevaux, ont toujours des problèmes pour trouver de l'espace pour faire paître leur bestiole. Donc ils sont présents là-haut. Après, on sait aussi qu'on a le monastère de Durbon, qui est plus vers Sisteron, qui a des alpages vers Luz-la-Croix-Haute. Et là, manifestement, c'est pour l'élevage ovin ou bovin. Donc il y a aussi, là pour le coup, on a les ordres monastiques sont extrêmement puissants. On peut avoir des troupeaux beaucoup plus importants.
Ces ordres monastiques, c'était juste pour eux? Ou est-ce qu'ils avaient vocation de nourrir un peu aussi les populations, comme c'est le cas aujourd'hui de nos éleveurs?
Alors, au départ, ce qu'on donne aux ordres monastiques, puisqu'ils acquièrent peu au départ, hein, c'est surtout des dons qu'on leur fait. On achète son petit paradis en faisant don d'une terre, par exemple.
Voilà, ouais.
Et au départ, c'est en effet plus dans un but, d'abord pour faire vivre la communauté monastique, ça c'est le but premier, la faire subsister, et aussi pour venir en aide aux pauvres, aux indigents, aux personnes dans le besoin. Plus le temps passe, plus les communautés monastiques, en tout cas celles qui subsistent, vont avoir tendance à rentrer dans une démarche qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que les coûts de fonctionnement deviennent prohibitifs et l'argent qui arrive réellement chez les personnes qui en ont besoin devient ridicule.
Oui, bien sûr.
Mais là, il faudra attendre quelques siècles. Là, on est au 16e, 17e. Et d'ailleurs, c'est sans doute... cette pratique, qui n'est pas seulement celle des monastiques, mais de tous les ordres ecclésiastiques, c'est une pratique qui peut expliquer aussi, dans nos secteurs, la forte progression du protestantisme dès le XVIe. C'est-à-dire qu'on peut aussi y voir une réaction face aux abus de l'Église sur les données économiques.
On parlait de transhumance et nous en sommes arrivés aux guerres de religion. Tout est lié, on vous l'a dit. Avec Jacques Planchon, t'allais dire quelque chose ?
Absolument pas.
Je vais t'avancer vers le micro.
Je me suis avancée vers le micro parce qu'après, il va falloir dérouler un petit peu ce qui va se passer. Mais je peux peut-être laisser remercier Jacques tranquillement.
Tout à fait. Merci Jacques Planchon. Directeur quand même de la culture pour la ville de Die et également de conservateur et directeur de ce musée de Die et du Diois. Ouvert tout le temps, prêt à faire des visites thématiques quand vous voulez. Et en tout cas aujourd'hui encore pour cette fête de la transhumance.
Alors en tout cas au musée justement, il s'y passe quelque chose à 19h. 19h30 parce qu'il y a un petit retard sur le troupeau sans aucun doute.
Le troupeau c'est 18h30, ça on nous l'a confirmé. Bah, voilà, donc, on fait encore trop chaud.
Donc on repousse aussi le...
19h30 au musée, la cloche d'or, un conte musical, tout public à partir de 3 ans. Voilà, c'est les aventures de Jean le berger, son troupeau, et puis tout ce qui s'y passe. C'est, ça m'a l'air sympathique, et puis bien accessible aux petits qui ont dû passer une après-midi fatigante. Comme on l'a dit, le troupeau, le grand défilé du troupeau suivi par les Codiois, qui va faire 2 fois le tour du centre-ville, et puis qui ensuite va aller faire quoi d'ailleurs ? Pas du tout.
Part vers Chamaloc.
Il part vers Chamaloc, voilà, il s'en va. On n'oublie pas à 19h, ici même, la remise des prix du concours de photographie. Vous avez pu voter sur Internet pour les photos qui sont affichées sur la scène juste derrière moi, pour voter pour votre préféré autour du thème de cette année. Et puis voilà, sera remis le prix. À 20h, le dîner de la transhumance, si vous avez réservé vos places. Et puis sinon, peut-être qu'il en reste, il faut aller se renseigner. Et à 21h, 2 choses en même temps. Il va falloir faire un choix. Une projection au Théâtre de Die entre Chien et Loup, un film documentaire suivi d'un échange. Donc là, c'est des images en vision nocturne du travail des chiens de protection. Et puis voilà, visiblement, on a l'attaque d'un loup sur un troupeau en vision nocturne avec justement les limites du travail du chien de protection. Et ça, c'est en parallèle du bal rock'n'roll qui aura lieu ici même à 21h avec les Barbarins Fourchus. Les Barbarins Fourchus dont les chanteurs vont arriver ici pour nous parler un peu de ce qu'ils vont proposer juste là. Et après les Barbarins Fourchus, vous avez l'after disco funk par le président de Radio Diwa qui va venir mixer.